sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo. Un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales faciosos.
Sur les chemins de l'exil. Une série documentaire de résonance sonore. Angel, ou la vie d'un réfugié en France. Angel n'a que 10 ans, mais il est déjà vieux. La vie lui a volé son enfance. Il perd sa mère dans un bombardement à Barcelone durant la guerre d'Espagne. Il est alors placé dans une colonie d'enfants près de Gironde. Les troupes franquistes arrivent dans la région fin janvier 1939. Des camions militaires de la République évacuent les enfants pour les mettre à l'abri. Son père veut les récupérer, mais il arrivera à la colonie trop tard. C'est donc sans maman, ni papa, qu'Angel, sa petite sœur et son frère fuient vers la France. D'abord avec les camions militaires, puis, suite à un terrible bombardement à Figueras, où de nombreux enfants de la colonie périrent, seuls, dans le flot humain chaotique de la retirada. Arrivé enfin en France, il est séparé de force de son frère et de sa sœur dans le camp d'Argelès-sur-Mer. Une déchirure terrible. Il est désormais totalement seul.
Un jour sans date, hors du temps, des hommes nous demandent de sortir de la baraque et de les suivre en silence. Ils s'adressent à nous, les grands, qui n'avaient qu'entre 10 et 14 ans.
On nous a chargés dans plusieurs wagons à bestiaux et on ne savait pas où on allait. Et de là, ben, le train est parti. Je ne pourrais pas vous dire combien de jours nous sommes restés là-bas dedans. Dans le wagon, à bestiaux, il y avait de la paille par terre. Il n'y avait pas à boire ni rien. Quoi. Alors au bout de je ne sais pas combien de temps, j'étais arrêté à une gare, je ne sais pas laquelle. Et puis ils ont ouvert la porte. Ils n'ont même pas regardé s'il y avait un malade ni rien. Ils ont laissé de grandes gavetas. Dans une casserole, je me souviens, personne n'a mangé ni bu. On n'était plus des enfants, on n'était plus rien. On était des cadavres qui respiraient encore, c'est tout.
Le bruit macabre des roues des wagons au contact avec les rails nous abétit, comme un somnifère, et nous laisse sans réaction.
Le train s'est arrêté pour nous à Belvès. On ne pouvait pas descendre. On était ankylosé complètement. On était incapables de faire un pas, incapables. Il a fallu qu'on nous aide pour descendre. Et quand j'étais arrivé au sol, c'était juste pour se tenir debout. Là-bas, il y avait des femmes et des enfants qui nous attendaient. Mais qui nous attendaient avec une certaine méfiance, je dirais. Parce qu'à l'époque, les journaux en France, je ne dis pas tous, mais la plus grande partie des journaux avaient mal parlé de nous, très mal.
Au milieu du troupeau humain, l'anarchiste domine. On le reconnaît à ceci qu'il a les poches pleines, il est armé. Il a poussé devant lui les femmes et les enfants dont il ne se sert que pour camoufler sa fuite. En arrivant à la frontière, il se mêle à eux, il les incite à déborder le service d'ordre et il passe.
Gringoire, journal du 2 février 1939.
Toute la lie, toute la pègre de Barcelone, tous les assassins, tous les tchéquistes, les bourreaux, les déterreurs de carmélites, tous les voleurs, tous les pillards sacrilèges, tous les thénardiers de l'émeute font irruption sur notre sol.
Candide, journal du 8 février 1939.
La présence sur notre sol des réfugiés et des fuyards pose un problème grave qu'il faudra résoudre sans tarder.
Titre du journal Le Matin du 12 février 1939.
Il est évident que nous ne sommes pas les bienvenus. On dit de nous que nous sommes des voleurs, sans scrupules. On dit de nous que partout où nous passons, nous laissons détritus, désordre, sabotage et pillage. Je prends conscience du vide et de l'abîme immense qui nous sépare de ces gens. Je pense alors qu'il va falloir faire beaucoup d'efforts pour apporter la preuve de ce que nous sommes en réalité, des êtres humains.
Oh, les femmes qui venaient avec des enfants, les enfants se cachaient derrière la maman pour nous regarder. Les femmes nous regardaient, comme je l'ai dit, avec une certaine méfiance. Et puis, on l'a mis en file de deux, on a commencé à marcher. On allait à une résidence qui était du clergé. Le clergé passait ses vacances là-bas, dans cette résidence. C'était à l'extérieur de Velbès, sur les coteaux. C'était dur d'arriver, très dur. Quand il fallait monter le coteau, on ne pouvait pas. Enfin, nous sommes arrivés. On nous a séparés de tous les autres, on nous a mis en quarantaine. Et puis bon, on nous a fait déshabiller complètement et passer sous des douches. On avait des maladies de peau, quoi. Alors on nous a nettoyés, il y avait deux dames là qui nous frottaient. Mais de là, ils nous ont donné des habits, tout neufs d'ailleurs. Et puis là, on était tout beau. Il y avait des lits, avec des draps. On ne savait plus dormir là-dedans, nous. Et au bout d'un certain temps, ils ne sont pas restés 40 jours, une quinzaine de jours. On s'est mélangés avec les autres. Alors là, il y avait des classes et tout, c'était vraiment bien. Il y avait des maîtres et tout. On jouait au ballon et tout, c'était vraiment bien. Et on mangeait très bien.
La vie dans ce paradis de Belvès est organisée de façon à nous aider à soulager les horreurs que nous avons vécues. Il y a même des cours scolaires et de gymnastique. Cependant, après nous, les nouveaux arrivants ont été reçus d'une façon différente. Le directeur a changé. Ce n'est plus l'aimable directeur que nous avons connu. Celui-ci emploie des mots agressifs et laisse craindre le pire pour ses pauvres enfants.
Alors moi, ce que je voulais, c'était rejoindre mon frère et ma soeur. C'était prioritaire pour moi. Alors quand il y avait d'autres enfants qui arrivaient, mais je leur posais toujours la question, et s'ils n'avaient pas vu un enfant comme ça, une fille blonde, et avec un petit frère. Puis un jour, il y en a un qui me dit, « Oh oui, il y en a un là, il est toujours accroché à sa sœur et il pleure tout le temps, il pleure tout le temps. » Je dis, « Ça va être lui. » Alors je demande où ceux qui sont, etc. À l'époque, on ne parlait pas français non plus. Alors lui, il dit, « Bia no sé qué, bia no sé qué. » La faim et la misère réveillaient bien les esprits quand même. Parce qu'à cet âge-là, avoir déjà l'idée combien de temps tu as mis pour arriver. Ils venaient avec des camions. À peu près tant. Alors, regarder une carte et se faire l'idée d'un rayon d'action, il faut le faire à 10 ans quand même. Mais ça, c'est la misère qui réveille. C'est pas l'intelligence, hein, c'est autre chose. Je regarde la carte. Et je vois qu'il y avait Villefranche de Périgord. Alors je demande, non, mais je ne sais pas, non, je ne sais pas. Bon, c'est ça, il n'y avait pas autre chose dans ce rayon-là. Alors, nous, on descendait de temps en temps, en promenant, au village. Et on passait un carrefour. Et à ce carrefour, il y avait justement l'indication de Villefranche de Périgord. Et ça, je l'avais remarqué, moi. Alors, quand j'ai décidé de m'évader, eh bien, je descends au carrefour, je regarde l'indication, puis je prends la route. J'avais marché peut-être 3 heures ou plus, quand il y a un motard qui arrive à mon hauteur, et qui me dit, où vas-tu? Moi, je ne savais pas répondre en français, mais enfin, avec des gestes un peu comme les Italiens et tout ça, mais je lui fais voir, à Villefranche, Villefranche. Il dit, ah, ben moi aussi, j'y vais, monte. Et puis bon. Quand tu fais demi-tour, ils me ramènent à la colonie. Bon, là-bas, à la colonie, je me suis fait engueuler. Et puis, il y en a un qui m'a tapé avec la ceinture. J'ai eu la chance qu'il m'a tapé avec la boucle et qu'il m'a laissé des marques. Il m'a tapé, etc. Et on m'a enfermé dans le KGB, où ils mettaient les balais et tout ça. Et je suis puni là-bas. Alors, j'avais droit à un peu d'eau. Les amis, là, quand ils mangeaient, ils me gardaient toujours un morceau de pain avec une sardine ou autre chose. Et puis quand ils passaient, ils me jetaient par en haut, donc je mangeais plus qu'eux. Quand je sors de là, quelques jours après, quand je prends des forces, je me bats de nouveau. Mais cette fois-ci, au lieu de prendre la route, je fais les coteaux. Toujours avec la route sous ma vue. Et puis il arrive un moment où j'étais fatigué et j'avais une soif terrible. Je vois une petite ferme, mais petite, hein, très petite. Et dans la cour, il y avait un puits. Il y a une dame qui sort de la maison avec un chien qui puise de l'eau. Et puis, elle s'en va. Mais elle fait rentrer le chien. Dès qu'il rentre dans la maison, je descends en courant. Je prends mon seau là. Et tout de suite, je lève mon seau avec plein d'eau là. Rien que de la voir, j'avais déjà la bave. Je prends mon seau là et quand j'allais boire, je dis, il y a quelqu'un derrière. Je me tourne lentement, lentement, sans lâcher le seau. Et je vois la dame et le chien. Mais le chien gentil comme tout. Et puis la dame, alors, magnifique. J'ai toujours dit que c'était ma samaritaine. Alors elle s'approche de moi, petit à petit, elle n'a pas peur, etc. Elle me fait comprendre et que je peux boire. Alors moi, c'est pris le seau, j'ai mis la tête dedans, je crois. Bon, j'ai bu. Et puis elle m'a dit de rentrer avec elle. Hein. Pas question de rentrer. Je suis resté dehors. Elle m'a dit, ben attends. Et le chien est resté avec moi, mais gentil comme tout. Je lui parlais, je le caressais, impeccable. Et la femme, elle revient, elle porte avec elle, j'allais dire, un bol de lait, mais non, c'était un saladier. Un saladier rempli de lait. Elle retourne à la maison, elle me sort des tranches de pain avec du beurre et un peu de confiture. Moi, je bois ça, je mange. Enfin, on finit par avoir une certaine confiance. Alors, je rentre. Je m'assieds à la table, là. Je commence à parler comme on peut. Et elle me fait voir son téléphone. Et moi, je dis, elle va appeler. Alors, je lui dis, vous allez appeler, là? Non, 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 calme-toi, calme-toi. Au bout d'un bon moment, je comprends que la police a appelé pour lui dire qu'il y a un enfant qui s'est évadé, etc. Et que si elle le voit, qu'elle appelle. Alors, moi, je lui explique pourquoi je me suis évadé. Mon frère, ma soeur, tout ça. Alors, elle me dit, ah, ben ici, il y a une colonie d'enfants, de réfugiés espagnols. Je me dis, je vais t'expliquer. Quand tu rentres après cette clairière-là, il y a un bois, tu prends le sentier, et tu vas jusqu'au fond. Et quand tu arrives au fond, tu ne lâches pas le sentier, tu entendras les enfants jouer à la colonie. Le chien m'a accompagné jusqu'au bois. Je prends le sentier, j'ai embrassé le chien quand même. Et puis, je n'étais pas sorti encore du bois là, que j'entends déjà des cris. Je dis, oh purée, ça y est, j'y suis. Effectivement, il y avait la route à traverser, puis j'arrive là-bas. Je regarde, il y avait un portail en fer. Et je regarde par-dessus, je vois ma soeur et mon frère dans un coin là. Et effectivement, mon frère a accroché à elle. Alors je vais rentrer, puis je rentre dans le couloir. Il y a une dame qui vient en courant et qui me dit « Où c'est que vous allez ? Où c'est que vous allez ?» Alors moi, j'explique en espagnol, parce que je ne parle pas français. Et alors elle s'est mise à parler espagnol. Alors je lui explique aussi que si je retourne, qu'ils vont me battre, qu'ils m'ont déjà battu. Ah bon ? Alors je lève mon petit tricot que j'avais mis, je lui fais voir les blessures de la boucle, que je garde encore les cicatrices. On était en train de parler. On entend une voiture qui arrive. Et c'était deux policiers qui venaient me chercher. Ils ont dit, oh, attendez, attendez, attendez. Je vais appeler le commissaire. Le commissaire de police arrive. Il faut que ça aille. Alors elle lui a dit, oui, mais regardez ce qu'ils lui ont fait la première fois. Comment tu lui fais la deuxième? Quand lui, le commissaire de police, il a vu les traces que j'avais, il a engueulé ces deux policiers. Il leur a dit de partir en vitesse. Au demeurant, il allait les enfermer, lui. C'est comme ça que je suis resté avec mon frère et ma soeur.
En me voyant, ils se mettent à pleurer et à rire en même temps. Tandis que moi, ému et fatigué, je tombe à genoux en les serrant très fort dans mes bras.
Et là, ben, comme j'étais grand, par rapport aux autres, je les aidais pour jouer avec les enfants et tout ça. Ça n'a pas duré longtemps parce que c'est quand il y a eu la déclaration de guerre. Et il ne faut pas oublier qu'en France, il y a eu un exil ou un exode de plusieurs millions de personnes qui venaient du Nord et qu'il fallait bien les caser ici aussi. Donc c'était normal, ils avaient préférence. Donc nous, il fallait nous faire sortir de la colonie. Dans la colonie, il y a beaucoup qui sont partis dans d'autres camps où ils ont trouvé leurs parents ou autre, tout ça. Puis ceux qui n'avaient personne, comme mon frère, ma sœur et moi, nous n'avions ni papa ni maman. Et puis on nous envoyait à Sarlatte, dans un camp d'hébergement pour réfugiés républicains espagnols. On l'appelait aussi le camp de la Croix-Rouge, parce qu'ils avaient mis une boîte aux lettres, avec une Croix-Rouge, de la Croix-Rouge. Et là, on n'avait pas besoin d'enveloppe ni quoi que ce soit pour envoyer une lettre. Il suffisait d'avoir un bout de papier, on écrivait dessus et on mettait dans la boîte. Et toutes les semaines, il y avait une personne qui venait chercher tous les écrits. Et moi, j'écrivais « Papa, viens nous chercher », etc. Et mon père, il faisait des recherches aussi. Et c'est ainsi que nous nous sommes trouvés. Son mari, il était blessé, il avait des fils en acier qui lui tenaient la mâchoire et puis les dents. Il était complètement défiguré. Quand nous l'avons vu, mon frère et ma sœur se sont cachés derrière moi. Ils avaient peur. Mais moi aussi, voilà. J'avais pas peur, mais enfin, ça faisait quelque chose, quoi. Petit à petit, lui, il a essayé de me faire comprendre que c'était lui, le père, quoi. Alors, on s'est embrassés, etc. Ma sœur, mon frère, ça, ils ont mis un peu de temps. Donc, il est resté quelques jours avec nous. Et plus tard, le père, on l'a envoyé à Lyon, à l'hôpital des Jeunettes. C'était un hôpital spécialisé, justement, pour tout ce qui est facial, quoi. Et là, il a eu une opération très, très importante. Donc, il était ancien combattant, blessé de guerre, il était à 70%.
Le père d'Angel fait donc partie des nombreux réfugiés espagnols qui se sont engagés activement contre les Allemands une fois en France. Il a ainsi intégré le service de renseignement aérien de l'aviation française. C'est donc au service de la France qu'il fut défiguré. À l'hôpital où il a subi l'opération, sa marraine de guerre, Madame Durotti, l'aide à faire venir ses enfants plus près de lui, à Écully, à côté de Lyon, dans une colonie pour enfants. Malheureusement, avec l'avancée de la guerre, la colonie est encore une fois dissoute. Dans l'impossibilité d'accueillir ses enfants dans le taudis qu'il habite, le père d'Angel décide de les placer dans différentes familles. Angel est encore une fois séparé de sa sœur et de son frère. Il est envoyé en 1942 au village du Grand Hébergement dans l'Ain, où il devient garçon de ferme, exploité par son patron sans vergogne. C'est là, dans le contexte de la guerre, qu'il devient, malgré son jeune âge, un agent de liaison du maquis. Quel sera son avenir à la sortie de cette deuxième guerre qu'il vit ? Seront-ils à nouveau réunis, lui, Angel, Maxi et José ? Pourront-ils revenir vivre en Espagne si les Alliés sont victorieux ? Franco tombera-t-il ? Toutes ces questions sont celles de nombreux réfugiés espagnols engagés en France dans la résistance.
Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades.
C'était Angel ou la vie d'un réfugié en France. Sur les chemins de l'exil, une série documentaire de résonance sonore soutenue par la région et la DRAC Occitanie. Retrouvez son podcast sur www.resonance-sonore.fr.